et de continuer le dialogue par communication interposée, en sachant que vous êtes psychologue, clinicien, que vous êtes directeur de recherche au CNRS et que vous êtes directeur aussi d'un centre de recherche psychotrope santé mentale et société à Paris-Descartes.
Merci. Alors, je ne suis pas psychologue clinicien. J'ai fait des études de psychologie et je travaille dans un... Mais je n'ai pas droit au titre, puisque je n'ai pas le fameux DESS de psychologie. Et je dirige un laboratoire qui s'appelle le CERMES 3, qui est un laboratoire qui rassemble justement dans l'esprit, un esprit qui doit vous intéresser peut-être, les questions de sociologie, de sciences sociales de la santé, ça va de l'économie à l'histoire, et qui inclut dans ce champ-là la santé mentale. Chose très particulière, puisque pendant très longtemps, il y a vraiment une hétérogénéité profonde entre les questions de santé mentale et de santé générale, et que nous avons décidé de consacrer le même type d'études et de méthodes aux deux domaines et de féconder, si possible, de manière croisée dans notre groupe de recherche, les choses de façon à ne pas justement maintenir cette distinction. Je vais commencer par une anecdote pour faire écho et contrepoint à ce que vient de dire Anne Fagot-Largeau. C'est quelqu'un qui, puisqu'il se trouve aussi que je suis analyste, c'est quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, voilà, je viens de la Salpêtrière, j'ai été hospitalisé, on vient de m'expliquer que donc j'ai un trouble bipolaire, que c'était génétique, que je devrais prendre des médicaments toute ma vie et que la psychothérapie ne me ferait rien. Alors je viens vous voir parce que ça m'a totalement déprimé. Voilà, on est dans ce type de situation. D'un côté, et ça c'est une situation, je crois que tout le monde la voit bien sur le terrain, hein, d'un côté des explications psychogénétiques qui frisent au délire, qui frisent le délire, hein, qui enfoncent les gens dans des situations de culpabilisation dramatique, mais je pense que Brigitte en dira un mot, notamment à côté de l'autisme. De l'autre, une forme de savoir qui est très sincèrement vécue. Il se trouve que je connais le service, je sais qui a fait le diagnostic et que je connais même la personne qui a fait le diagnostic et qui a parlé comme ça. Les gens qui sont extrêmement sympathiques, bien intentionnés et qui ne se rendent absolument pas compte que le caractère libérateur ou non d'un propos ne tient pas à son contenu, mais au contexte et à la forme sous lequel il peut être admis et intégré par la personne à un moment particulier de sa trajectoire. Et que ça ne correspond pas à un état de son cerveau, mais à un état de la façon dont le cerveau est plongé dans beaucoup de relations, où c'est des personnes et des sociétés, des niveaux de langage, et des engagements éthiques qui sont sollicités. Et en fait, on est pris, je dirais, entre le marteau et l'enclume, parce qu'il y a là deux extrêmes, me semble-t-il, extrêmement sensibles. Donc, je voulais faire une proposition qui paraîtra un peu provocatrice après ce qu'a dit Anne Fagot. C'est la provocation suivante, c'est de dire que la psychiatrie, ça existe, vous étudiez bien quelque chose, et ça existe pour la raison qu'elle a un objet. Et que, à la surprise, j'espère, au scandale général, je dirais que cet objet qui lui confère une consistance rationnelle, eh bien, c'est celui qui a été mis en avant par Pinel, hein, dès le départ. C'est qu'il existe bien un esprit malade et qu'on peut tenir un discours rationnel sur l'esprit malade. Et que non seulement on peut tenir un discours rationnel sur cet esprit malade, mais on le doit. Alors ça, cette thèse-là, que j'essaie de défendre dans mes travaux depuis un certain nombre d'années, a plusieurs volets, plusieurs dimensions que je vais énumérer et que je laisse à votre réflexion et à la discussion. La première, c'est celle qui émergeait dans la discussion à l'instant, c'est qu'il n'y a à mes yeux aucune raison d'être intimidé par un quelconque projet réductionniste en psychiatrie. Serait-il placé sous le signe des neurosciences cognitives? En effet, ce à quoi nous avons affaire en psychiatrie, c'est à l'esprit malade, et c'est un espace de signification, un ordre propre, auquel il faudra toujours, de toute façon, rapporter ces projets réductionnistes d'explication moléculaire, biochimique, évolutionnaire, cognitif, tout ce que vous voulez. Il faudra toujours rapporter à ce que cet ordre propre de ce que l'on appelle l'esprit malade pour juger de la qualité ou de la non-qualité de ces projets réductionnistes. Autrement dit, la position que je défends n'est pas du tout que ces projets réductionnistes échouent, hein, qu'ils ne parlent pas de la maladie mentale telle qu'elle est vécue, ce n'est pas du tout une position anti-scientifique. C'est pour, au contraire, on a besoin de cela pour vérifier s'ils réussissent ou pas et dans quelle mesure, et qu'on n'évitera donc pas d'entrer dans un débat extrêmement clair et précis sur ce qu'on appelle l'esprit malade, quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, en tant que tel, pour savoir si ce qui est proposé comme explication biologique, etc., est cohérent avec. Et donc, y a là une sphère de recherche autonome et propre, et que le projet phénoménologique, bien loin à cet égard d'être un projet périmé, est un projet qui reste absolument indispensable, c'est-à-dire qu'au lieu de... On fait une mauvaise phénoménologie, au lieu de faire une bonne phénoménologie consciente de la nécessité de cette strate d'identifier ce dont on parle et les niveaux de signification dont on parle quand on parle d'un esprit malade, par exemple en essayant de résoudre le problème avec des moyennes ou des écarts-types psychométriques. Deuxième position que j'aime, c'est qu'il n'y a aucune raison non plus d'être intimidé par une forme de relativisme étayée par le recours à l'historicité des normes, notamment en santé mentale, et de la variation bien connue selon les époques et les cultures des normes du normal et du pathologique. Pourquoi ? Parce qu'on peut parfaitement raisonner et soutenir que pour des raisons objectives, des raisons conceptuelles, les normes ne sont pas toujours des conventions arbitraires. Les normes sont des régulations immanentes d'un certain nombre d'usages, de pratiques, de concepts psychologiques, et que s'il y a des degrés relatifs de normativité, des degrés de normes, il y a ce qui est relatif, certes, mais ce sont des degrés relatifs d'objectivité. Autrement dit, il peut tout à fait y avoir des normes qui sont beaucoup plus objectives que d'autres, hein, et que le mettre en évidence, le fait que certaines de ces normes, par exemple du normal et du pathologique, du raisonnable et du fou, etc., certaines sont meilleures que d'autres, n'implique aucunement de renoncer à l'exigence d'objectivité. C'est même, je dirais, au contraire, la condition nécessaire d'une critique rationnelle. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir une objectivité en soi de la folie. Il suffit d'avoir des instruments qui nous permettent de trier entre les propositions qui sont faites par les cliniciens, les biologistes ou les grands théoriciens, des positions qui sont plus rationnelles que d'autres. Par là, la position que je défends s'oppose de la même manière qu'elle s'oppose radicalement aux thèses monistes, naturalistes, réductionnistes, très en vigueur, pas ici à proprement parler, ni même chez Anne-Fago Largeau, qui ne tient pas une position radicalement ontologique à cet égard, mais elle s'oppose cette fois à, disons, un courant qui est alors très connu en France quand c'est Foucault, mais qui peut être aussi bien les théories du label ou des choses de ce genre en termes de santé mentale. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas du tout à la pertinence philosophique de la pensée du soupçon à cet égard, et je ne crois pas du tout, en fait, qu'on puisse légitimement instiller une mauvaise conscience aux praticiens de la psychiatrie en leur disant « vous êtes des gens qui pratiquez quelque chose comme une sociatrie ou une pratique normative, etc. » C'est pas parce que c'est faux dans le détail. On sait très bien contre quelle psychiatrie éminemment coercitive et réactionnaire en pratique s'est dressée l'antipsychiatrie dans les années 60. Ça existait vraiment, hein, cette psychiatrie coercitive, extrêmement... Mais c'est parce qu'en soi, ce n'est pas la psychiatrie qui est en cause là-dedans. Troisième point, c'est que personne non plus, alors je ne sais pas si c'est un point qui peut vous toucher, personne non plus n'est tenu ou contraint à cet éclectisme mou sur lequel on finit par s'arranger dans le désarroi général, qui consiste à dire, oui, bien sûr, c'est social et relationnel, mais enfin, quand même, il y a des bases neurobiologiques, et il faudrait être biopsychosocial. Pourquoi ? Parce que si vous dites biopsychosocial, si vous voulez le dire d'une manière consistante conceptuellement, il vous faut produire ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire des relations qui soient des relations assignables entre ces niveaux, et non ce à quoi malheureusement se réduit le paradigme biopsychosocial dans la psychiatrie contemporaine, c'est-à-dire un conglomérat confus de compromis placés entre différents types de praticiens, dont l'un fait une psychothérapie, l'autre s'assure qu'il y a un appartement thérapeutique, et le troisième surveille que ça ne va pas faire un syndrome malin si vous surdosez tel neuroleptique. Bon. Si on veut avoir un vrai biopsychosocial, il faut un instrument qui vous permette de faire de ce mot valise quelque chose de cohérent. Alors, il y a une tentation extrêmement forte aujourd'hui, auquel j'ai consacré pas mal d'analyses dans mes essais, qui est, au fond, l'idée que vous auriez un moyen d'intégrer autour des sciences cognitives un certain nombre d'acquis des théories de l'apprentissage tirées des neurosciences, de faire tourner autour de la notion d'empathie un certain ajustement entre les cerveaux, et ayant franchi ce seuil de la relation de cerveau à cerveau, comme si c'était une relation d'individu à individu, par le jeu des neurones miroirs ou des choses, de franchir un saut qualitatif qui vous permettrait de produire quelque chose comme des neurosciences sociales. La psychopathologie est intéressée au premier chef là-dedans, puisque un des piliers de ces neurosciences sociales, c'est la transformation de l'autisme ou d'un certain caractère de l'autisme, qui est la difficulté à déchiffrer les intentions d'autrui en tant qu'intention, lorsqu'elles ne sont pas traduites par des actions, mais quand il faut les inférer comme intention en tant que telle, de faire jouer à ce paradigme de l'autisme, mais aussi on pourrait dire de la schizophrénie par d'autres aspects, etc., un rôle organisateur, au sens où finalement l'autisme intégrerait comme un modèle cette espèce de nous permettrait de penser ce que c'est que ces neurosciences sociales. Et ainsi, les théories contemporaines de la naturalisation de l'action, sciences cognitives, du self, du contrôle de ses propres actions, de l'identité personnelle, de l'ajustement de nos actions et de nos intentions sur les actions et les intentions d'autrui, nous permettraient de produire un très joli modèle finement intégré avec des relations substantielles, cohérentes, empiriquement étayées, qui nous permettraient d'aller comme ça, des bases neuroscientifiques jusqu'à l'échange social. Un très beau modèle de la chose, c'est celui que défend Marc Gendreau depuis de nombreuses années. Ça va bien sûr pour faire chic avec un appoint évolutionnaire, avec probablement ce qu'il y a de plus idiot, je le dis dans la psychologie évolutionnaire contemporaine, ce qui est la psychiatrie évolutionnaire, qui est une chose extrêmement difficile à lire quand vous êtes à une formation psychiatrique, parce que là, vraiment, on a un sentiment de désarroi devant la façon dont sont représentées les maladies mentales. Et en même temps, on est bien obligé d'avoir recours à un argument évolutionnaire, puisque, ultimement, le seul principe de naturalisation de l'action, c'est que l'action serve à vous adapter, non seulement au monde dans lequel vous vivez, mais aux congénères avec lesquels vous vivez dans ce monde, pour reproduire votre espèce. Alors, tout ça, c'est très impressionnant, parce que ça s'efforce de confisquer le sérieux de la science. C'est-à-dire que tout ça, ça marche si vous êtes impressionné par l'idée que l'idéal du savoir, c'est la façon dont on sait et dont on pratique le savoir dans les sciences de la nature. Là, il y a quelque chose qui est extrêmement intimidant, surtout quand, effectivement, le savoir médical vous montre tout ce que le savoir des sciences naturelles peut apporter. Alors, quatrième point de mon argument ou de la position que je soutiens, c'est que je crois que les critiques négatives de ce type de conception ne suffisent pas. En tout cas, elles ne suffisent plus. J'en rappelle les principales, n'est-ce pas ? Alors d'abord, il y en a une toute simple, c'est l'insuffisance de nos connaissances scientifiques, qui est souvent d'ailleurs accompagnée d'une rhétorique dénégatrice. On fait comme si on savait et comme si c'était déjà désormais établi qu'on connaît les causes neurobiologiques de la schizophrénie, etc. Bon. Par exemple, entre autres choses, on a des pistes, et pour le moment, ça ressemble à rien du tout à connaître les causes de tel ou tel cancer ou de retracer l'étiopathogénie de telle ou telle tumeur du sang à partir de telle anomalie génétique, de telle cascade de signalisation cellulaire provoquant tel et tel trouble du métabolisme, provoquant, etc. C'est-à-dire les histoires complètes qui sont aujourd'hui la norme pour publier dans des grandes revues d'oncologie, par exemple. Aujourd'hui, on raconte des histoires très complètes. En psychiatrie, vous pouvez toujours courir pour trouver une quelconque histoire complète allant du moléculaire jusqu'au symptomatique. C'est vraiment pas du tout du même ordre. Donc il y a eu toutes sortes de critiques que vous lisez assez facilement, les critiques des protocoles expérimentaux, des usages plus ou moins biaisés des biostatistiques, etc. Ça va à un tel degré que c'est contaminé, et ça c'est le grand public qui est sensible, de pratiques qui sont tout simplement des pratiques malhonnêtes, hein, dans la pratique scientifique, pas seulement alors en médecine en général, mais en psychiatrie aussi, liées aux pressions économiques et à la façon dont, par exemple, comme vous savez, les laboratoires ne publient jamais les essais négatifs sur de leurs psychotropes ou des choses de ce genre, et qu'on peut payer très très cher un professeur de psychiatrie à vendre, par exemple, troubles bipolaires chez les enfants, etc. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il a gagné tellement d'argent à faire ça qu'on se demande au juste de quoi il retourne quand il en fait le marketing. Le dernier point, le mot d'éthique a été prononcé ce matin. Alors, ça, c'est encore une des critiques négatives que l'on fait. Il y a quelque chose, moi, qui me met très mal à l'aise. C'est la chose suivante. C'est qu'on a fini par donner tellement de sens à l'idée que le psychiatre devrait se méfier de ses impositions normatives, c'est-à-dire de l'application aveugle de ses préjugés sociaux et subjectifs, etc. C'est-à-dire, les psychiatres ont fini par eux-mêmes par se prendre tellement pour des imbéciles incapables de se protéger en se soupçonnant eux-mêmes de l'imposition inconsciente de normes sur leurs malades, que la mauvaise conscience est devenue l'humeur de fond de bien des praticiens. Avec ce paradoxe extrêmement singulier que la lecture de Foucault a été mise au service d'un hyper-humanisme du respect de la singularité subjective liée à la mauvaise conscience radicale dans laquelle un certain nombre de praticiens pouvaient se trouver de peur, n'est-ce pas, de normer leurs patients. Mais si, comme je le soutiens, il n'y a aucune raison d'avoir mauvaise conscience, alors ce type d'éthique-là n'a pas non plus de raison d'être. Et peut-être même que, du coup, ce qui est entièrement ouvert, ce sont d'autres questions éthiques beaucoup moins explorées que celles qui sont discutées ici. Avec également, je dirais, ce paradoxe, deuxième paradoxe, je dirais, d'un âge post-foucaldien de la psychiatrie, auquel on est assez sensible en France, mais pas seulement, c'est que ça aboutit au développement paradoxal d'une éthique quasi-légale, hein, qui est un empilement de normes supplémentaires, de tout ce qu'il faut faire. Il faut informer le patient de son dossier, etc. Enfin, c'est comme dans mon service, n'est-ce pas ? Il y a la charte du patient, n'est-ce pas, qui est régulièrement arrachée par le paranoïaque de service, qui évidemment sait très très bien que la charte du patient, c'est entièrement du pipeau et qu'ils ne sont pas bêtes, les patients. Ils ont bien compris que depuis qu'on est obligé de leur communiquer les dossiers, il n'y a plus rien dans les dossiers, hein, parce qu'on n'écrit même pas les observations, puisqu'on ne peut pas laisser au patient savoir ce que sa famille nous a raconté ou de qui il est l'enfant ou pourquoi sa femme va le quitter. Bon. Donc, comme on ne peut pas l'écrire, ben on ne le met pas. Et donc, les dossiers sont vides. Et ça aboutit donc comme ça à ces espèces d'effets paradoxaux, au nom du respect de cette singularité subjective, à multiplier des normes par humanisme au nom justement de quelqu'un qui en était le critique. Tout ceci, c'est un enjeu, à mon avis, très important, qui fait transition avec ce que je vais vous dire maintenant. C'est que si cette critique négative, à mon avis, ne suffit plus, ça ne suffit pas de dire que, bon, on n'a pas les preuves, les preuves sont biaisées par la malhonnêteté des gens, c'est pris dans des pratiques sociales qui sont complètement contradictoires. Ça ne suffit pas parce que ça révèle non pas une insuffisance malheureuse de la psychiatrie, mais peut-être ce que c'est que la pratique intellectuelle de la psychiatrie et les conditions de son exercice dont il n'y a pas du tout à avoir peur. Ce qui rend très très problématique toute discussion dans le champ de la psychiatrie par opposition à celui par exemple de la mécanique statistique où contrairement à ce que les gens s'imaginent, dans le même laboratoire de physique, deux personnes ne peuvent ne pas s'adresser la parole et se traiter avec le plus grand mépris, parce que la manière dont elles calculent une chaudière, c'est totalement hétérogène, et qu'il ne faut surtout pas s'imaginer qu'en physique quantique, les gens s'entendent. Hein, ça peut être la haine pure et l'autre considéré comme un type irrationnel. Hein. Mais c'est qu'en psychiatrie, il y a deux phénomènes. C'est que la position de l'autre n'est pas simplement fausse, elle est grotesque. Ça contamine le tout débat entre les deux extrêmes qu'indiquait tout à l'heure Anne Fagot-Larchaud, hein, c'est-à-dire les neurobiologistes fanatiques contre les constructivistes idéalistes purs, n'est-ce pas ? C'est que non seulement c'est pas que c'est faux, le problème que c'est faux est presque accessoire, c'est que qu'on puisse penser comme ça, c'est grotesque. Et deuxième danger extrêmement important, qui est très sensible dans les disputes, par exemple, entre les gens inspirés par la psychodynamique et ceux inspirés plutôt par les traitements pharmacologiques, par exemple, c'est que non seulement c'est grotesque, mais en plus c'est dangereux pour leurs malades. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans la tête de l'autre, ce n'est pas simplement des idées fausses, c'est articuler des pratiques qui peuvent être nocives. Et que donc là, ça donne un tour polémique, une violence supplémentaire à l'échange. C'est très, par exemple, ce qu'on disait, ce que vous dira tout à l'heure sans doute Brigitte sur la psychanalyse, c'est pas juste que la théorie est fausse, c'est que la manière d'agir que cette théorie construit produit des effets qui sont indiqués comme nocifs et qui donnent lieu à des pratiques de révolte de la part d'un certain nombre d'individus. Donc tout ça, c'est vraiment le champ même des choses, c'est que c'est pas simplement faux, c'est qu'il y a des affects et des représentations sociales qui sont prises en même temps de manière intrinsèque dans l'espace polémique de la psychiatrie. Qu'il s'agisse des psychothérapies, de la prescription des psychotropes, des réformes de la psychiatrie sociale, de la psychiatrie évolutionniste, du rôle de l'imagerie ou de la génétique dans le dépistage ou le diagnostic des maladies mentales, tout ça s'est livré à ce type de polémique. Alors, le pari sur lequel j'ai essayé de faire reposer mes recherches depuis plusieurs années, c'est que ce n'est pas un malheur contingent qui affecte le débat. Ce n'est pas du tout un malheur qui est quelque chose, voilà, dans un monde idéal, on pourrait discuter sereinement entre différentes écoles de psychiatrie. C'est une voie d'accès à ce que j'appelle dans mon exposé l'objet même de la psychiatrie, c'est-à-dire l'esprit malade. Et lorsque j'indique ceci, je fais référence à une analyse, je ne suis absolument pas du tout quelqu'un, comme je suis effectivement pas moniste, mais pas dualiste au sens ordinaire. Je ne crois pas du tout qu'il existe quelque chose comme l'esprit, d'ailleurs, ou le corps. Je crois qu'il existe des concepts psychologiques qui ont une logique particulière et que vous ne ferez jamais fonctionner dans aucune sorte de raisonnement discutable et utilisable en pratique dans les échanges ordinaires, comme d'autres types de concepts qui sont ceux qu'on utilise pour parler des objets physiques, matériels ou du monde vivant, etc. Et cela même d'ailleurs avec toutes sortes de différences. Et que l'esprit dont je parle, l'esprit malade, c'est en fait la collection, l'analyse logico-verbale des usages que nous avons, des mots, lorsque nous nous plaignons, lorsque nous disons que nous allons mal, lorsque nous exprimons un certain nombre de positions qui sont qualifiées comme ça classiquement de délire, d'hallucination, etc. Quelle est la nature de ces actes de langage? Quelle est la façon dont ils peuvent ou ne peuvent pas s'impliquer dans un discours? Comment peut-il y avoir un discours délirant suivi? Comment peut-il y avoir comme ça des inférences, des connexions, des échanges de toutes sortes? Autrement dit, l'esprit dont je parle, ça n'est pas l'esprit-cerveau, hein, ce phénomène émergent du cerveau, c'est un jeu de concepts qui a des propriétés formelles originales qui reposent notamment sur leur intentionnalité et que nous utilisons, non pas, n'est-ce pas, en lisant comme tels qu'ils sont, mais en échangeant les uns avec les autres et en nous confrontant les uns avec les autres. Personne n'a dans sa tête inscrite nulle part la vérité sur le bon usage de tel ou tel de nos concepts psychologiques. Nous pouvons les rectifier, cela fait partie justement mutuellement de l'échange, notamment de l'échange clinique. Ça va à un tel point que, un peu comme Alain Ehrenberg, avec qui j'ai beaucoup travaillé, je pense même que l'esprit-cerveau, hein, ce dont parle Jean-Noël Missa, hein, dont vous avez vu le nom au tableau, c'est une manière sociale tout à fait typique de certains types de sociétés, dans certains contextes politiques, de construire des pratiques d'interaction avec les individus et de traiter la vie des gens, de considérer comment il faudrait les éduquer, les transformer, de guider des politiques publiques, etc. Et qu'il est extrêmement sensible que c'est totalement dépendant du caractère radicalement individualiste de certaines de nos sociétés. L'esprit, donc, que j'ai défendu dans mon bouquin, là, l'esprit malade, c'est un esprit qui est justement pas dans la tête. Voilà, c'est la rupture que j'essaie d'introduire pour qu'on pense la question de la psychiatrie à nouveau frais. C'est l'idée que c'est un esprit qui est dehors, qui est un esprit qui est entre nous, qui est l'affaire de négociations, de circonstances, d'interprétations, hein, c'est-à-dire justement de savoir exactement. Un état mental n'existe pas en dehors de l'interprétation que nous avons de la façon dont les autres l'interprètent. Hein. ce ne sont pas des choses qui sont connectées de manière isomorphe à des activations neuronales, même si vous avez besoin d'un ancrage de ce type-là, et que ces interprétations sont bien sûr historiquement situées. C'est pourquoi l'histoire des psychopathologies est toujours extraordinairement anthropologique. C'est un extraordinaire révélateur anthropologique. L'autisme en est un exemple, je crois, absolument spectaculaire, parce qu'on peut voir, en plus, sur des périodes de temps, mais Brigitte va en parler, assez accessible à l'enquête, une enquête approfondie de l'histoire des représentations, des transformations sidérantes et qui sont totalement contre-intuitives pour les acteurs eux-mêmes de ce dont il s'agit. Et ce sont des révélateurs, non pas de ce qu'est l'autisme, mais de ce qu'est l'autisme pour nous, dans nos vies de famille, dans notre rapport aux enfants, dans notre rapport à ce que nous appelons nos performances, nos qualités intellectuelles, et peut-être tout d'un coup nos qualités affectives, auxquelles on ne pensait pas, à d'autres types de choses qui nous étonnent. Et donc, l'esprit, hein, l'esprit malade, ce dont on parle, c'est cette logique des concepts psychologiques qui, dont on a besoin de clarifier le sens, ne serait-ce, je vous le rappelle, que pour mesurer l'efficacité des stratégies de réduction qui nous sont proposées par la psychopharmacologie ou la génétique. De toute façon, vous ne pouvez pas éviter de clarifier conceptuellement et probablement phénoménologiquement aussi de quoi on parle quand on parle de ces choses-là et d'être sensible à l'historicité et au caractère socialement produit de ces choses-là. Est-ce que pour autant, nous versons dans un nouveau relativisme ? Pas du tout, puisque, à nouveau, ce sont des invariants conceptuels, hein, c'est-à-dire ce sont des choses qui permettent de guider et de normer des pratiques logiques. Contrairement à Foucault, par exemple, je soutiens qu'il y a bien une histoire des sciences en psychiatrie. Ce n'est pas faire l'histoire de la psychiatrie, ce n'est pas livrer le panorama esthétique des grandes représentations de la folie, n'est-ce pas, qui se sont succédées, hein, moins bien sûr, la seule qui serait rationnelle, c'est celle du critique, n'est-ce pas, qui s'accepte de ce panorama en le montrant, n'est-ce pas, comme si lui-même n'était pas inscrit dans une certaine histoire des représentations de la folie. Et donc l'articulation que je propose de déplacer, c'est une articulation en bougeant complètement, n'est-ce pas, le monopole de l'esprit-cerveau dans la compréhension des choses. C'est de passer beaucoup plus du mental au social que du mental au neuronal. Alors, les moyens que j'essaie d'employer dans les recherches que j'ai proposées, hein, c'est justement de montrer qu'on peut appliquer des méthodes d'analyse conceptuelle, d'analyse logique, aux concepts psychologiques qu'utilisent les psychiatres et les psychologues. Bon. Or, ça n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, une position intellectualiste. Je ne suis pas en train de dire que dans les maladies mentales, il n'y a que des représentations et des concepts, bien au contraire, puisque les notions dont j'essaie de montrer comment nous nous en servons, hein, ce sont par exemple des notions comme la dépression, comme la honte, comme la culpabilité, comme l'angoisse, en montrant comment, pour avoir un savoir réductionniste de ces et par exemple pour fabriquer des anxiolytiques, n'est-ce pas, il faut avoir bien une idée de ce que c'est que l'angoisse. Hein, on est obligé de fabriquer des concepts objectivés de certaines de nos émotions, en croyant que ce concept objectivé, c'est le concept tel qu'on s'en sert. On s'en sert dans les fins de l'objectivation qui sont celles de la naturalisation. Et j'essaie de valoriser contre la croyance que vous captez, par exemple, avec le concept objectivé de l'angoisse ou de la honte, ce qu'est le fonctionnement réel immanent dans l'interaction ordinaire de la honte, de l'angoisse ou de la culpabilité, j'essaie de montrer que la façon dont on se sert ordinairement de ces notions, hein, dans nos échanges, hein, modifie même notre regard clinique. C'est-à-dire que ça approfondit le regard clinique et dans bien des cas, ça permet de le retrouver. Ça permet de réhabiliter un certain nombre d'intuitions fondamentales de la phénoménologie, de la psychiatrie classique descriptive et de la psychanalyse. Et c'est ce qui n'est possible que si on se livre à des analyses conceptuelles qui ne tiennent pas pour acquis que pour faire de la science, il faut préalablement réduire et objectiver les concepts psychologiques de manière à les rendre manipulables par des instruments psychométriques ou des choses de ce genre. Et donc, le but que je poursuis en me focalisant notamment sur la question de la dépression, de la culpabilité, de la honte, des choses-là, c'est de sortir de l'impasse qui est très courante dans la discussion, hein, qui consiste à dire que ce qui est affectif est subjectif et que ce qui est subjectif est arbitraire et qu'il n'y aurait de sens que si on pouvait enfin se débarrasser de la menace de l'arbitraire dans la prise en compte de la subjectivité. Ça a deux lieux électifs dans les travaux que je mène et qui sont des, où j'essaie de montrer justement la profonde unité, hein, qu'introduit comme objet l'esprit malade dans l'attitude du psychiatre. C'est pas simplement qu'il a un regard à jeter, une façon de comprendre ce que c'est que le savoir biologique que nous avons aujourd'hui sur le cerveau. C'est aussi que le même psychiatre va à un moment ou un autre dans sa vie être amené, par exemple, à signer un certificat. De plus en plus, hein, je vous signale, ça c'est en train de venir, des certificats de non-dangerosité ou des choses de ce genre. Et en tout cas, pour un certain nombre d'entre vous, bientôt, des expertises médico-légales portant, par exemple, sur la responsabilité d'un fou criminel. Pourquoi j'attache une très grande importance à la chose, c'est que dans ces histoires-là, il est fondamentalement question de tenir compte de l'effet que ça nous fait d'être en face de quelqu'un et d'avoir à juger, non pas par des raisons purement conceptuelles et intellectuelles, mais par la manière dont nous sommes affectés et dont le patient lui-même a été affecté dans sa vie par telle et telle chose, de son degré de responsabilité. Et là, on a besoin de clarifications conceptuelles sur ce qu'on appelle dans l'échange, dans la vie ordinaire, avant même qu'on essaie de les objectiver avec des échelles, à toutes ces choses-là. Un deuxième aspect sur lequel je suis beaucoup intéressé, c'est le fait que l'émotion, la honte, toutes ces choses-là, la dépression, ce sont aussi dans la vie quotidienne, dans la vie des gens, hein, des idiomes de détresse. C'est une expression qu'a forgée notre collègue Anne Lovell. Ça tombe juste. Et que Alain Ehrenberg a repris. Ces idiomes de détresse, ce sont les manières dont aujourd'hui nous allons exprimer de quoi nous nous plaignons. Lorsque vous voyez arriver quelqu'un, n'est-ce pas, à l'hôpital qui dit « Ah, je suis dépressif, docteur », vous avez très bien commencé dans un service d'urgence, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une dame qui s'est remise à boire après 10 ans d'abstinence, ça peut être une jeune fille qui vient d'être plaquée, ça peut être un schizophrène qui recommence à entendre des voix, etc. Pourquoi ? Parce que dire « je suis déprimé », c'est une des manières de solliciter l'aide d'autrui. Et vous diriez « je suis neurasthénique », personne ne vous comprendrait. Avant la guerre de 14, on vous aurait compris. Ou si, en dehors du XVIIe siècle, vous dites que vous êtes mélancolique, personne ne vous comprendrait. Donc nous avons un certain nombre d'idiomes de détresse, et ces idiomes de détresse, comme Alain Ehrenberg l'a marqué, comme j'ai essayé de le montrer dans d'autres contextes, sont variés avec les cultures, par exemple. Et nous, en gros, on en a 4 ou 5, hein, je dirais. Il y a 4 manières vraiment d'avoir une vraie aide mentale et psychologique, c'est dire que vous êtes déprimé, de dire que vous êtes traumatisé, avec même ces formes de trauma subtils que sont la persécution au travail, etc., les abus moraux de toutes sortes, être addict, être accro, et là vous pouvez être accro à beaucoup de choses, n'est-ce pas, pas simplement à un toxique, mais aussi au jeu, au sexe, à Internet, etc. Les grandes somatisations, comme par exemple, c'est la moitié des arrêts de travail, plus de la moitié, plus 75%, je crois, des arrêts de travail en France sont faits pour les troubles musculo-squelettiques, par exemple. Quand on essaie d'expliquer à un médecin de l'OMS ce qui est une situation que nous connaissons bien, parce qu'on l'a vécu, ce que c'est qu'un trouble musculo-squelettique, les gens ouvrent les yeux comme des soucoupes, n'est-ce pas ? Vous passez la frontière belge et il n'y en a plus. Bon, hein, c'est tout à fait autre chose. C'est absolument pas construit de la même manière. C'est comme la fibromyalgie américaine ou des choses de ce genre. Et puis, certaines formes de retraite, comme probablement la phobie, par exemple, les phobies scolaires ou les phobies sociales. C'est des idiomes de détresse, c'est-à-dire que c'est pas simple, ce sont des choses dont nous nous servons pour appeler au secours et qui se nourrissent indirectement des acquis médicaux, de la possibilité de demander un médicament, de décrire sa condition morale de souffrant dans des coordonnées bien particulières et qui perturbent gravement, comme vous savez, les enquêtes épidémiologiques, puisqu'on ne comprend pas très très bien, juste quand c'est trop déclaratif, de quoi il s'agit. Je conclue en disant que si la psychiatrie peut exister, c'est autour de la constitution d'un objet qui lui soit propre. Et que ce à quoi nous assistons sous couvert de modèle biopsychosocial, c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, d'un côté un partage des tâches. Alors ce qui fait vraiment scientifique, c'est le sérieux médical, notamment par la neurobiologie. Ensuite, il y a la gestion des incurables, hein, rebaptisée chronique par la psychiatrie sociale. Et puis, il y a le supplément d'âme que vous offrent l'éthique et les psychothérapies. Au total, un conglomérat extrêmement mal vécu, douloureusement vécu par les praticiens, de pratiques qui passent entre elles des compromis changeants avec l'histoire. Pour que la psychiatrie puisse effectivement être tout à fait autre chose, il convient donc de lui redonner son objet pinélien, hein, celui que j'appelle l'esprit malade, et que ce projet philosophique, hein, que j'ai proposé passe par un certain nombre d'étapes qui sont justement la reconnaissance de l'ordre dans lequel nous pouvons décrire le mal-être psychologique, que cet ordre est un ordre conceptuel, qui a des ordres d'implication, des manières d'user du langage, etc., que ces concepts ont pour contexte leur usage ordinaire et non pas leur usage objectivé, qui est une spécification, et qu'elles ont une récurrence et une consistance qui est historique et sociale, et que si vous ne faites pas l'histoire de leur transformation, vous ne comprenez pas pourquoi elles ont ce pouvoir rationnel de guider effectivement des actions organisées. Et que ça, c'est vrai pour quantité de pathologies. C'est un programme que j'ai indiqué donc dans l'esprit malade, et ce que je souhaite rendre plausible, c'est qu'un tel programme rend effectivement son objet à la psychiatrie et la rend conforme au contrat que son nom passe, qui est avec nous, qui est celui d'être une médecine de l'esprit. Merci.